Bonjour chers auditeurs, Marie-France Guimard-Roche est heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission de l'écho de ma commune, émission aidée par le Conseil Général d'Eure-et-Loire. Je reçois à nouveau dans nos studios du Rocas Gérard Hamel, maire de Dreux, président de la communauté d'agglomération Dreux Agglomération, mais nous aborderons le sujet dans d'autres émissions parce que déjà la ville de Dreux, c'est un sujet très dense. Bonjour Gérard.
Bonjour.
Je suis heureuse de te retrouver.
Merci.
C'est gentil aussi de revenir nous voir.
C'est réciproque.
Et tu es chez toi d'ailleurs maintenant dans les studios, il n'y a pas de problème.
Sans problème.
Nous allons parler d'un chantier qui te tient à cœur, un gros chantier.
Oui, je suppose que tu veux parler du pôle Gare.
C'est énorme.
C'est effectivement le gros chantier de ce mandat et qui est d'ores et déjà bien avancé. On a parlé du centre-ville, on a parlé de la rénovation urbaine. Aujourd'hui, on a quand même autour de la gare des disponibilités foncières et on a là l'occasion de créer autour de la gare un pôle économique qui devrait permettre d'installer à Dreux ce qui manque un petit peu après la désindustrialisation des services et du tertiaire.
Quand tu parles de disponibilité de territoire, je suppose que c'est la bordure des voies ou tout ce que nous voyons.
Oui, il y a derrière, qui donne sur la rue des Rochelles, derrière la gare, par rapport à la façade de centre-ville, il y a là des terrains qui servaient dans le temps au transport de marchandises ferroviaires. Cernam, les choses comme ça. D'ailleurs, on a démoli récemment les bâtiments qui recevaient toutes ces marchandises. Et ces terrains-là sont disponibles. Et donc, nous avons l'intention de moderniser notre gare de façon à ce qu'elle puisse accueillir, parce qu'elle accueille de plus en plus de voyageurs. Et d'autre part, autour de la gare, en synergie avec la gare, on peut trouver, on va construire d'ici 2020, avec des initiatives publiques et privées, 15 000 m² de bureaux qui permettront d'accueillir des entreprises dans le tertiaire ou dans les services. Alors, dans l'état actuel des choses, c'est un énorme projet qui est co-financé et co-piloté par l'agglomération et par la ville de Dreux. Alors, les grands chantiers, une part se font, quand je dis les deux, par exemple l'agglomération, il est dans ses compétences, et l'agglomération a hérité aujourd'hui du transport public routier.
Toutes les communes sont impliquées, bien sûr.
Oui, via l'agglomération. Et donc, nous allons refaire pour remettre aux normes et moderniser la gare routière. Les travaux vont démarrer d'ici la fin de cette année, même à partir du mois de juin.
Ça sera toujours à la même place ou bien est-ce que ça va être...
Oui, à la même place, mais ça va être plus grand, déplacé sur le côté. On va démolir les anciens locaux du comité d'entreprise de la SNCF. On va les reconstruire par ailleurs. C'est des travaux gigantesques. Hein. Actuellement, nous en sommes au passage Saint-Denis. On est en train de recreuser le passage Saint-Denis qui va permettre le passage des bus.
Les bus ne pouvaient pas passer sous le passage Saint-Denis.
Hélas, c'est un souterrain qui avait été prévu sur l'axe principal d'accès à l'hôpital. Même les ambulances n'y passaient pas. C'est quand même assez bizarre à l'époque où c'est fait. Bon, peu importe. Hein. Aujourd'hui, nous refaisons ça à la fois pour tout le trafic de voyageurs lié au transport en commun, lié aux déposes minutes, vont se passer par l'arrière. On a un gros problème de parking puisque 3500 personnes prennent le train tous les matins et donc il faut absolument, on va créer un parking aérien, un parking silo qui va permettre d'accueillir 300 véhicules. On va installer des bureaux comme je l'ai dit et là on en est au stade des infrastructures. On relie d'une manière piétonnière Ça s'est fait sous les voies. On a refait, c'est la ville de Dreux qui en a été le maître d'ouvrage, on a refait un passage souterrain qui permet de relier d'une manière piétonnière le quartier des Rochelles au centre-ville.
Accessible aux handicapés ?
Alors, pour l'instant, ça ne l'est pas, puisque ça, c'est des compétences de la SNCF qui doit le faire. Évidemment, la SNCF a ses impératifs, disent-ils, financiers. Et depuis qu'il y a eu l'accident de Brétigny, on nous dit bah, tout l'argent est consacré aujourd'hui aux maintenance des voies sur l'ensemble du pays. Et donc, nous n'avons pas de crédit pour faire ça.
Alors, j'avais accompagné un couple d'amis assez âgés avec leurs valises. Ils devaient changer de quai. Je dois dire qu'avec les escaliers de part et d'autre, c'était compliqué. Inutile, évidemment, de te préciser qu'avec un fauteuil roulant, ce serait impossible.
C'est dommage que ça n'ait pas pu se faire pour des questions financières liées à la SNCF.
Bah, en même temps. En même temps.
Mais bon,
et il n'y a rien à faire, là.
Je ne gère pas l'argent. Ben si, moi, j'y travaille. J'avais une réunion prévue là, au mois de février avec la direction régionale de la SNCF, de Gare et Connexion, etc. Parce qu'il y a plusieurs... direction, c'est
plus,
un peu compliqué,
la SNCF. Oui, il y a une loi pour
ça. Et donc, j'avais rendez-vous avec eux, pour des raisons qui m'échappent, le rendez-vous a été décalé, je les rencontre très prochainement pour mettre la pression sur la SNCF pour qu'ils réalisent ces travaux-là.
Au minimum, ils pourraient imaginer qu'il faut quand même profiter des travaux que la ville fait, et l'agglomération fait, à grands frais, j'imagine, pour éviter d'y revenir,
ça me paraît... Tout ce que je dis là, s'agissant du pôle Gare, c'est la ville et l'agglomération qui payent, hein, qui financent tout. La SNCF ne finance rien. Ils en profiteront parce que ça devrait être de nature à augmenter les trafics, etc. Mais la SNCF, c'est une volonté politique exprimée par la ville et l'agglomération et qui est donc prise financièrement par les deux. C'est comme ça.
Et ils en tireront le bénéfice.
Alors après, tout le monde, j'espère que tout le monde, y compris la ville, bien entendu, sinon on ne le ferait pas, la ville et l'agglo. Le passage Saint-Denis sera terminé, alors il procure actuellement quand même des gênes. J'étais hier sur le chantier pour faire le point avec la maîtrise d'œuvre et les entreprises. Bon, c'est vrai que ça procure quelques gênes. Au mois de septembre, ce sera fini. On va terminer cet été par un giratoire à la place des feux que l'on a dans la rue Saint-Denis. Il va y avoir un grand giratoire qui va permettre l'accès à ce pont, le passage sous le pont, etc. Donc des améliorations là. La gare routière va se construire en même temps simultanément. Et puis tout de suite, derrière, nous allons refaire tout le parvis avant d'accès à la gare. Le giratoire qui est face au boulevard Louis Terrier va être supprimé. Celui-là sera supprimé. Bref, tout le quartier va changer complètement d'aspect. Simultanément, il y a là on va construire donc le parking silo par l'arrière, commencer à construire, on en a fait un immeuble pour amorcer la pompe et voir ce qu'il était possible de faire sur les terrains disponibles. Il y a un immeuble qui est fait, qui abrite actuellement, entre autres, Pôle emploi. J'étais la semaine dernière à Paris avec un promoteur qui s'intéresse pour venir construire d'autres surfaces de bureaux par tranche, etc. Puis nous avons en face, sur des terrains privés, de l'initiative privée, dont nous sommes partie prenante, parce qu'on veut faire avancer des initiatives et des dossiers. En face de la gare, ça y est, enfin,
les restaurants, les hôtels, tout va être rénové.
Voilà, tout ça va être lancé. Tout le site, l'ancien site industriel d'Emery Caron, il y a un très beau projet dessus, avec un promoteur parisien, qui devrait pouvoir se faire. Voilà, c'est un quartier qui, d'ici 2020, dans ce mandat, tout sera peut-être pas fini. On n'aura peut-être pas construit 15 000 m². On est quand même tributaire d'une conjoncture qu'il faut qu'il soit favorable pour que des entreprises nouvelles s'installent. Mais tout sera bien engagé. Ce quartier aura vraiment changé, là aussi, d'aspect. On sera surpris pour les gens qui auront vu le quartier tel qu'il était en 2015 et qui sera devenu en 2018. Tout ça devrait être terminé pour les infrastructures et tout ce que je viens de citer sera fini en 2018. Et j'espère que les bureaux seront très avancés si la conjoncture, encore une fois, veut bien nous sourire.
Tu disais qu'effectivement, ça occasionnait de la gêne pour les usagers, ça c'est certain.
Toujours les travaux.
Pour ma part, je trouve que le rond-point de l'entrée de Dreux,
Alors ça,
ça occasionne une gêne certaine.
Ce qui était très étonnant, c'est que je m'attendais à ce que ce soit la grosse gêne, soit le passage Saint-Denis, parce que les travaux sont très importants, c'est 2 600 000 euros, rien que ce passage-là, ce sont des travaux très importants, et donc je m'attendais à ce que la plus grosse gêne soit là, parce qu'on est quasiment au centre-ville. Or, en fait, le giratoire qui est en train de se faire au Guéosanne, c'est l'État, puisque c'est la fin, faut pas que ça te fasse sourire, mais c'est la fin de la déviation de Chérisy. Depuis le temps qu'elle était. Oui, c'était
et
programmé
elle a été
dedans.
Elle a inauguré en quelle année cette déviation?
Il y a 15 ans. Voilà. Hein, et donc, enfin, on fait ce giratoire que j'attendais, pour lequel je mets la pression dessus depuis 15 ans pour que ce soit fait. Et donc.
Mais à l'époque, j'avais été extrêmement. Moi, je ne suis absolument pas technicienne en la matière, complètement béotienne, mais le problème, je l'avais vu tout de suite. Comment se fait-il qu'en sortant de cette superbe déviation, qui a été absolument parfaite, c'est sûr, on tombe sur la remontée avec deux petites voies?
Alors, moi, je n'ai pas de commentaire à faire. C'est des travaux de l'État, pris à 100% pour l'État, avec des super techniciens et ingénieurs d'État, au travers de la direction régionale des routes, hein, de l'aménagement des routes. Voilà. Alors, ce que je constate aujourd'hui, c'est que c'est un chantier qui se déroule pas aussi bien que celui de la gare. Hein. J'ai eu l'occasion, c'était dans la presse ce matin, de dire hier que j'étais très satisfait de la manière dont se déroulaient les travaux du passage Saint-Denis. Je le suis un peu moins. Et je suis allé récemment avec le sous-préfet à une réunion de chantier où j'ai dû taper du poing sur la table pour que les travaux, on s'occupe moins des problèmes de gêne de riverains. Et là, ce ne sont pas des riverains pour le bruit, l'habitation, n'importe quoi. Le chiffre d'affaires de la station-service a chuté de 30 ou 40%. Et ça ne soucie pas.
J'ai envie de dire seulement, parce que là, franchement, c'est
parce que
compliqué.
J'ai beaucoup insisté personnellement pour qu'on prévoyait à l'origine de couper carrément la route pendant 3 mois ou 6 mois. Donc je suis intervenu pour faire en sorte de limiter la casse. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est très gênant. On s'aperçoit que ce secteur-là aménagé et très emprunté. On va s'en sortir fin mars.
Dans combien de temps? Fin mars.
Fin mars, début avril, on m'a dit. Je suis prudent parce que, encore une fois, là, on ne maîtrise rien. Autant le passage Saint-Denis, le maître d'ouvrage, c'est la ville de Dreux. C'est nous qui faisons. Autant là, c'est l'État. On est tout simplement, nous, spectateurs, informés. Mais c'est l'État qui fait. Voilà. Alors, je suis régulièrement avec eux. Mon directeur des services techniques suit les travaux. C'est un peu difficile.
On en accepte l'augure. Alors, on fait de grands travaux, évidemment, mais ça, nous en parlerons dans une prochaine émission. Ça concerne plus particulièrement l'agglomération. Mais le problème de l'autoroute...
Oui.
Donc, on en est où? Juste quelques mots sur ce projet.
On devrait avoir normalement l'enquête publique qui devrait se terminer d'ici la fin de cette année.
Et elle est déjà engagée ou non, cette enquête publique?
Non, mais elle va l'être. Normalement, je crois qu'elle est prévue à être engagée d'ici cet été ou tout de suite au retour des vacances. C'est une enquête publique qui devra durer 7 ans, je crois, sur 2 mois. L'objectif étant que l'enquête publique se termine fin décembre, donc fin 2016. De façon à ce que soit lancé après l'appel d'offres, une fois l'enquête publique faite, la procédure, c'est le lancement d'appel d'offres pour choisir le concessionnaire qui fera les travaux.
En fait, je ne suis pas du tout au courant de la façon dont se passe cette enquête publique. Qui sont interrogés dans cette enquête publique?
Tous les habitants. Alors, il va y avoir à la fois des réunions. Les habitants vont pouvoir s'exprimer verbalement en venant aux réunions. Ils vont pouvoir s'exprimer par écrit. Il va y avoir des lieux qui vont être indiqués par l'État pour déposer ses écrits, ses observations, ses suggestions. Les associations contre vont s'exprimer, vont donner des arguments. Ça, c'est l'enquête publique qui va permettre de finaliser le projet.
Mais donc, ce sont les gens qui sont logiquement, le long de l'autoroute qui sont concernés,
non,
les gens
non,
des
tout
villages
le monde, tout le monde. Tout le monde peut faire. Dans une enquête publique, elle est publique, elle est ouverte à tout public.
Tous les gens qui se sentent concernés donc peuvent s'exprimer.
Ceux qui sont encore plus concernés, parce que l'autoroute passe à proximité, effectivement, c'est ceux qui sont peut-être le plus mobilisés pour venir donner leur point de vue. Mais tout citoyen a le droit, le devoir de venir s'exprimer sur
donc
un ouvrage.
Donc ils sauront comment faire pour pouvoir s'exprimer. Ça sera en mairie, ça sera par voie de presse.
Il y aura des lieux, hein, l'État va indiquer, on indiquera par tous les moyens de communication, là où il y aura les lieux de consultation possibles et de dépôt dans les mairies, par écrit, il y aura par écrit, par Internet, par... voilà. Il va y avoir tous les moyens de communication qui
c'est
vont
une
permettre
consultation
aux gens,
très vaste.
Voilà. Qui devrait permettre de finaliser le dossier pour passer à la phase suivante.
Alors, dernier sujet que j'aimerais aborder avec toi aujourd'hui, c'est celui de la sécurité.
Oui.
Il y a quelque temps, tu disais que tu étais très content de la situation qui s'était améliorée. Et il faudrait évidemment voir avec le commissariat de police ce qu'ils en pensent. Je suppose que tu es en contact avec eux. Nous avons une commissaire désormais, Hélène Denechère.
Oui, ça fait un an et demi qu'elle est là.
Un an et demi.
Hein, voilà, oui, qu'elle a été nommée.
Et quels sont les effectifs
à la suite du commissaire Doré. Bon, il y a des effectifs théoriques sur papier, puis il y a des effectifs réels sur terrain.
Hein, je me suis toujours demandé pourquoi on ne pouvait pas engager des secrétaires pour faire le boulot de secrétariat.
Si ça se fait.
Et puis laisser tous les fonctionnaires de police aller à l'extérieur.
Il y a de moins en moins de fonctionnaires de police qui ont été formés pour la sécurité sur le terrain. Il y en a de moins en moins l'administratif. Ce que l'on voit l'administratif, mais qui est incontournable, ce sont les officiers de police judiciaire qui recueille les plaintes, etc., ça ne peut pas être un secrétariat. Il faut que ce soit un officier de police compétent.
Alors, nous avons combien de fonctionnaires de police à Dreux ?
Sur papier, il y en a 140. Actuellement, je crois qu'il en manque une quinzaine. Le député s'est exprimé récemment. Nous intervenons, le préfet...
Monsieur Marleix.
Monsieur Marleix. J'ai eu des contacts avec le préfet pour que nous puissions obtenir que les postes soient pourvus d'une manière complète, de façon à ce qu'on ait des effectifs de police.
Et ça, c'est la charge du préfet
c'est une police nationale, c'est la police d'État, hein, qui est sous la responsabilité départementale des préfets, hein, donc les commissariats de Chartres et de Dreux. Il y a un directeur départemental qui est directement sous les ordres du préfet. Donc, j'en ai parlé depuis un certain temps au préfet. Je sais que le préfet intervient auprès du ministère pour que, d'autant que nous sommes ici à Dreux, au moins pour tout un secteur de la ville, en zone de sécurité prioritaire. C'est quelque chose que j'avais obtenu de Manuel Valls quand il a été, avant qu'il soit Premier ministre, il avait été ministre de l'Intérieur, il était venu à Dreux. Je lui avais expliqué les difficultés que l'on rencontrait, notamment liées au grand trafic dans le quartier des Oriels.
Est-ce qu'il y a eu un progrès avec l'état d'urgence ?
Alors, l'état d'urgence, c'est pas lié directement à la sécurité des Français au quotidien.
Il y a des investigations qui sont quand même beaucoup plus poussées dans des appartements,
découvertes. Oui, alors voilà, c'est ce que j'allais dire un peu. L'état d'urgence, c'est ça. C'est à un moment donné un contrôle plus étendu, plus précis sur un certain nombre de personnes qui peuvent être plus ou moins fichées par la police, hein, par l'administration.
Et même finalement, quand elles ne sont pas affiché, on peut très bien faire une descente chez quelqu'un.
Oui, alors ils ne le font pas par hasard. Voilà. Mais ça ne veut pas dire pour autant, quand ils le font, qu'à coup sûr, ils vont trouver ou le délinquant ou des choses. Hein. Ils en ont trouvé. Je pense que mon sentiment, c'est que l'état d'urgence, après ce qu'on a connu, était nécessaire. Je ne suis pas sûr qu'il faille le prolonger éternellement. Voilà.
De fonctionnaires de police qui m'ont dit qu'effectivement, ils trouvaient ça plutôt pas mal parce que ça permettait des investigations multiples
oui,
et qui donnaient, en allant à la pêche comme ça, ouais, pas mal de résultats.
C'est vrai que sur le principe, et a priori, on peut dire ça. Quand on rentre un petit peu plus dans le détail, il y a quand même des limites à un état d'urgence, et beaucoup. Hein, moi, je pense que c'est la sécurité d'abord, donc je ne suis pas contre le fait qu'il y ait des dispositions particulières prises quand on voit les carnages qui sont faits. Notre pays est en état de guerre. Et donc, à la guerre, on répond par des moyens. Et l'état d'urgence en est un, mais il n'y a pas que ça. Et donc, c'est vrai qu'il faut vraiment être vigilant sur nos territoires aux personnes qui pourraient créer ce type de... ou qui seraient embarquées. Hein, dans... Et donc, on peut être et on peut avoir des moyens de contrôle sans avoir forcément l'état d'urgence sur les va-et-vient d'un certain nombre d'individus, notamment, on sait, hein, quand un individu part en Syrie ou en Libye ou je ne sais où, on sait. Et s'il est sur notre territoire, tout ça, on sait. Donc, l'État...
Je pense que les gens ont été très, très choqués par le fait que la plupart des malfrats étaient fichés. Et la connaissance de ces fiches
Oui, mais il faut savoir, qui dit fiché, dit pas forcément coupable. Voilà. Hein, donc c'est très difficile. C'est que j'étais, quand, vous savez, le type qui était originaire, pas originaire, mais qui habitait à Chartres et qui avait fait participer au massacre du Bataclan, Jean-Pierre Gorge, me disait, ce type-là, je le connaissais et il avait rien de particulier en tant qu'homme en le croisant. Et pourtant, c'est devenu, il a été un hypercriminel. Donc c'est difficile. Il y a aujourd'hui le phénomène de l'insécurité. Il est plus, encore une fois, on est en guerre contre des fanatiques islamistes qui nous ont déclaré la guerre.
Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas de l'autre côté d'attentat. De tranchée, mais chez nous.
Et donc, ils essaient ces gens-là essaient de recruter chez nous. Le travail de fond de la police, ça doit être plutôt celui-là. Détecter les gens, les mettre effectivement sous surveillance, des gens qui peuvent être suspects de basculer à un moment donné dans le terrorisme et l'horreur de ce qu'on a connu. Voilà. Ceci dit, on a aussi la responsabilité de ne pas créer de traumatisme. On vit, on continue à vivre. À Paris, on a tous, hein, plus ou moins, des petits-enfants à Paris qui sont pas loin de là où il y a eu le carnage du Bataclan. Ils auraient pu se trouver ce soir-là à aller au spectacle du Bataclan et être parmi les victimes.
Pour mais autant, c'est ça la difficulté, parce qu'en fait, on est dans un état de guerre, mais il n'y a pas de ligne de front.
Ben non, bien sûr. C'est ça, c'est une guerre d'une autre manière. Il n'y a pas d'affrontement sur le terrain et il y a pas, l'ennemi n'est pas identifié ou identifiable a priori. Voilà. Ceci dit, il faut faire preuve de beaucoup de hauteur sur le sujet, de sens de la responsabilité, de ne pas faire d'amalgame. J'ai personnellement, avec le sous-préfet, avec les autorités locales, eu beaucoup de conversations avec les mosquées, les présidents de mosquées, d'associations, les imams, etc. Ils sont peut-être encore plus effarés comme nous sur l'horreur des massacres qu'il y a eu. Mais ils se sentent aussi victimes de ça, parce que certains esprits, très simplement, peuvent faire l'amalgame. Or, la majorité des citoyens musulmans qui vivent sur notre territoire ne sont pas des terroristes. Quand je dis la majorité, c'est la très, 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 très grande majorité. Et il peut y avoir parmi eux des gens. Alors, il faut faire preuve de beaucoup de...
Un des problèmes aussi à éradiquer, c'est le problème des prêches dans les mosquées.
Il faut être à ce niveau-là très attentif. Il faut... les imams doivent être surveillés de près. Ils doivent prêcher en français, ils doivent, etc. Donc tout ça, ce sont effectivement des éléments. Il y a aussi derrière ça, je renvoie pas, c'est la responsabilité de tous, cette affaire. Hein, on ne peut pas dire que l'État se débrouille avec ça. C'est vrai que l'État a une grande responsabilité pour mettre en place des dispositifs qui permettent d'essayer d'éviter ça. Mais nous, localement, nous avons aussi un rôle à jouer. Et voilà. Mais encore une fois, il faut faire preuve aussi de modération sur le sujet, de ne pas faire d'amalgame, de bien voir les choses quelquefois. Moi, je sais un certain nombre de choses parce que je suis informé aussi des risques qu'il peut y avoir sur notre territoire, sur le territoire dont j'ai la responsabilité. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas pour rassurer. Il n'y a pas de risque particulier détecté. Ça ne veut pas dire que demain, il n'y aura rien. Mais il n'y a pas de risque particulier détecté sur notre territoire de gens qui pourraient commettre des actes. Voilà. Donc, par contre, il faut qu'on reste attentif parce que ça peut arriver. L'ennemi n'est pas détecté, n'est difficilement détectable. Et quand il frappe, il est trop tard.
On va terminer un peu plus légèrement. J'ai eu la très grande joie de recevoir dans nos studios le prince Jean d'Orléans, et qui a une requête à faire à la mairie. Il y a deux étendards sur sa maison et l'étendard Fleur d'Élysée tient le coup, pas de problème. Celui de la ville de Dreux laisserait à désirer, alors je te charge de faire le nécessaire
comme quoi
pour
la
lui redonner un drapeau.
Comme quoi la royauté n'est pas morte.
Je te laisse...
Ne serait-ce que par son étendard. Non mais bon, j'ai entendu ce que je veux dire d'ailleurs... Ce sujet-là, simplement, hein, c'est que moi, je suis ravi des liens quotidiens qu'on a pu rétablir avec la famille d'Orléans, notamment avec Jean et Philoména. Philoména est quelqu'un que tout le monde connaît dans Dreux. Elle est redevenue, elle est, oui, je peux dire redevenue, parce que le comte de Paris, l'actuel, a pris de la distance avec Dreux. En tous les cas, on le voit moins souvent. Il est sympathique, hein, quand il vient, que je le rencontre. Moi, je n'ai pas de problème particulier avec lui. Mais Jean et Philoména sont vraiment des Drouais. Ils se sont installés à Dreux. Ils participent. Philoména est toujours très contente de participer à un tas de choses. Elle est très appréciée des Drouais. Voilà. Donc pour nous, c'est très bien. On entretient d'excellentes relations. Et je ferai en sorte pour que le drapeau de la ville de Dreux soit changé dans les plus brefs délais et flotte à nouveau.
Le drapeau de la République, enfin de notre bonne ville, flotte à nouveau sur le domaine royal. Gérard, merci d'avoir répondu à mon invitation.
Merci.
Nous nous retrouverons pour parler plus précisément de l'agglo, dont tu es le président. Émilie Glory a enregistré et réalisé cette émission dans nos studios du Rocast de Radio Grand Ciel. Au revoir Gérard, merci.
Merci à toi, au revoir.
Au revoir. It was just one of those things. Just one of those crazy flings, one of those bells that now and then rings. Just one of those things. It was just one of those nights. Just one of those fabulous flights. A trip to the moon on gossamer wings. Just one of those things. If we thought a bit of the end of it when we started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear and amen. Here's hoping we meet now and then. It was great fun, but it was just one of those things. Thought a bit of the end of it when we started painting the town. We'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye.